Point de presse. Surprise du gouvernement québécois hier, un dimanche après-midi. On l'a annoncé le matin même. Je dis surprise parce qu'habituellement, ben, je me dis, moi, qui ne connais pas tant que ça en point de presse du gouvernement, mais si on fait ça un dimanche, ça doit soit être quelque chose de bien important, ou on veut juste passer quelque chose sous le radar et le passer subtilement un dimanche quand tout le monde est en congé.
Lettre du ministre Fitzgibbon qui critique les journalistes, la population concernant les grands projets. Bref, la CAQ voulait pas de distraction, Reg. Sam, ça fait 2-3 semaines qu'on nage en plein tourbillon.
Je pense que c'est mission impossible pour la CAQ, là, pour brasser un petit peu les choses. Il y a bien des sujets de discussion à avoir avec Pascal Paradis, qui est au bout du fil, député du PQ dans Jean Talon. Monsieur Paradis, bon matin.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien. Merci d'être avec nous ce matin, Monsieur Paradis.
Toujours un plaisir.
Je disais d'entrée de jeu que pour la majorité des Québécois et Québécoises, probablement une grande surprise qu'on annonce et on fait un point de presse un dimanche après-midi pour la CAQ. Étiez-vous surpris, M. Paradis?
Bien, c'est sûr qu'on ne s'attendait pas nécessairement à cette façon-là de procéder un dimanche. Puis là, surtout, on nous annonce que le prochain exercice budgétaire va être largement déficitaire. C'est ce que le gouvernement dit. On termine une période de difficiles négociations avec les travailleurs du secteur public. Puis, en gros, on semble dire, c'est de leur faute. C'est de la faute des négociations. On oublie de dire qu'il y a un contexte économique, que c'est le même gouvernement qui a décrété des baisses d'impôts qui ont favorisé les plus riches. Et à l'époque, ça fait pas si longtemps, là. Ça fait même pas 2 ans. Et on avait dit, ça va avoir un impact sur les finances publiques. Puis on a dit, non, il n'y en aura pas d'impact. Et aujourd'hui, on voit ce que ça donne comme résultat, ces négociations-là. Là, tout le monde les voyait venir. Là, ça faisait longtemps qu'on en parlait. Alors, vous venez de dire d'entrée de jeu là, que c'était un gouvernement qui avait dit qu'il allait éviter les distractions,
oui.
Qu'il allait se concentrer sur le travail à faire. Et depuis le début de l'année, je pense que même les 3 partis d'opposition, on est étonnés de voir à quel rythme le gouvernement cumule, en fait, les distractions.
Ouais.
Monsieur Paradis, j'aimerais vous entendre là-dessus. Je suis étonnamment surpris de la stratégie de la CAQ. Je m'explique. Moi, pour moi, on venait de faire la paix avec le monde de l'éducation, avec la nouvelle convention collective, puis on allait travailler après quelques points sur le terrain. Et là, on est en pleine négociation avec la FIC, puis on fait cette sortie-là en disant les augmentations salariales, ça cause un déficit. Il me semble que ça ne va pas du tout dans l'environnement là, de créer un climat sain.
Mais vous l'avez dit, et c'est une chose qu'on a dénoncée tout au long de l'automne puis des grandes négociations dans le secteur public, c'est que les travailleurs de l'État disaient « Allez à la table de négociation, là, puis on s'y met 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. » Et pendant ce temps-là, le gouvernement négociait sur la place publique ou faisait des déclarations fracassantes sur la place publique. Et ça, c'est pas, ça n'aide pas. Ça, c'est tout le monde le sait que c'est pas quelque chose qui favorise le dialogue entre 2 parties qui doivent mettre de l'eau dans leur vin pour arriver à une entente. Vous aurez peut-être remarqué qu'en ce qui nous concerne, nous, on a pendant des semaines réclamé ça, qu'il y ait des négociations, que ce soit sérieux, qu'on fasse une offre sérieuse. Puis à un moment donné, quand les gens, on voit que ça s'accélère puis qu'on est proche d'une entente, nous, on décide que c'est le temps de faire le profil un petit peu plus bas pour favoriser ce genre d'entente-là. Et là, c'est pas ce qui se passe parce que c'est pas terminé, là, les négociations dans le secteur public.
Du tout.
Nos infirmières, là, puis notre personnel du secteur de la santé attendent encore une entente et ils ne l'ont pas. Donc, c'est le temps de s'asseoir de nouveau à la table des négociations pour terminer ça, ce cycle de négociations.
Moi, j'irais même, M. Paradis, un petit peu plus loin. Moi, j'ai vu vraiment une pointe là, non nécessaire, en tout cas dans mon cas, envers les profs, en voulant dire, oui, on a un déficit du budget, mais gars, c'est parce qu'on a tellement donné aux profs du Québec.
C'est pas la bonne façon de faire les choses là, que de pointer du doigt, encore une fois, ces négociations-là, on les voyait venir. La dernière rentrée scolaire, on se le rappelle tous, là, il manquait de personnel. Il y a des classes qui n'avaient pas de professeurs. Il manque du personnel de soutien. Il y a des gens qui ont des conditions très difficiles. La fameuse composition de la classe, là, ça, c'est-à-dire, nos professeurs là, qui ont nos enfants là, qui à tous les jours à l'école, avec combien de cas de avec un accompagnement particulier peuvent-ils gérer, combien d'étudiants, combien d'élèves en tout dans la classe. Tout ça, c'est pas tout à fait réglé. Puis là, on se dit, ben ouais, mais ça va mal dans les finances publiques, puis c'est un peu de votre faute. Et je le réitère, c'est le même gouvernement qui a décrété des baisses d'impôts. Puis là, les baisses d'impôts, on peut être pour, on peut être contre.
Oui.
Nous, on pensait que c'était pas le bon moment parce qu'on voyait venir toutes ces dépenses-là aussi. Mais surtout, c'est un gouvernement qui a promis que ça n'aurait aucun impact sur les services et que ça ne nous mettrait pas en zone déficitaire. Et on voit le résultat aujourd'hui.
Monsieur Paradis, juste une dernière question par rapport au point de presse d'hier. Est-ce que la CAQ s'inquiète terriblement de la présentation du prochain budget pour faire un point de presse le dimanche pour comme mettre la table et, tu sais, juste mettre la puce à l'oreille des Québécois et Québécoises qui auraient déficit?
C'est toujours dur à dire. Hein? Nous, évidemment, là, on n'est pas à leur table de discussion. Quel est l'objectif derrière ça? Ça, c'est une partie de votre travail.
Oui.
Mais oui, peut-être qu'on est en train de préparer la table à un budget plus difficile que prévu. Peut-être qu'aussi qu'on veut se garder là, une belle surprise en disant « Ah, oh, on pensait que ça serait pas facile, mais finalement, c'est pas si mal. » C'est difficile à dire, mais surtout, vous savez, là, l'État, là, ça se gère pas par stratégie politique. Mm-hmm. L'État, ça se gère dans l'intérêt du monde, des gens du Québec. Et parfois, on se demande là, si ce gouvernement-là n'est pas en train de confondre un peu son intérêt et l'intérêt public. On l'a vu dans plusieurs autres annonces. Là, vous savez, on parlait encore une fois des distractions, mais notre session parlementaire a commencé avec toutes ces révélations qui ont été faites sur les méthodes de financement de la coalition Avenir Québec, hein, donc qu'on faisait miroiter la présence de ministres pour demander aux gens de donner 100 $ à la CAQ pour venir discuter de leur dossier. Le problème ici, c'est que c'est ça, là, on monnaie, si vous voulez, le don politique par rapport à un accès à un ministre. Et là, la solution du gouvernement, ça a été de dire « Ah, ben finalement, le financement populaire, là, on va mettre fin à ça. » Et ça, c'est une règle importante dans notre démocratie, hein, vous le savez. C'est comment on finance les partis politiques. Là, c'est extrêmement... C'est un pilier de la démocratie. C'est une question de transparence, une question de liberté d'expression aussi des électeurs. Puis là, on nous annonce du jour au lendemain une mesure comme celle-là parce qu'on était dans une difficulté politique. Donc, voyez-vous, le parallèle que je fais, c'est l'intérêt public, l'intérêt de l'État par rapport à des questions de stratégie politique. Et c'est pas comme ça là, qu'on doit gouverner.
Pascal Paradis, député du Parti québécois, dans Jean Talon. On se lève ce matin, on ouvre notre iPad, notre petite application de la presse, puis on voit cette lettre du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, qui lance une pointe à certains journalistes, en disant certains militants et certains journalistes tout aussi militants sont beaucoup plus bruyants que la majorité silencieuse qui appuie ses projets. Ils entretiennent une méfiance malsaine. On parle de projets comme celui de Northvolt. J'imagine que vous avez pris connaissance de ce texte-là du ministre Fitzgibbon. Qu'est-ce qu'on en pense à première vue de cette attaque-là envers différentes personnes en disant que ce projet-là est bien correct puis que les Québécois devraient l'appuyer?
Bien, vous savez, il y a une chose, c'est une chose que de dire aux Québécoises et aux Québécois, vous devriez l'appuyer. C'en est une autre d'agir de telle sorte que l'appui est plus difficile à donner. Si ce projet-là, il est tellement beau puis il est tellement bon pour le Québec, comment ça se fait que depuis le début, c'est un petit peu une culture du secret qui entoure ce projet-là? On apprend, là, on a appris les dernières révélations dont on parle, c'est que là, on a appris que le gouvernement a accompagné Northvolt dans son processus là pour déposer ses demandes puis ses approbations. Attention! Que notre État soit de plus en plus agile, puis soit pas toujours être une machine qui fait juste dire non, qui accompagne des entreprises, qui accompagne les entrepreneurs, ça c'est bien. Maintenant, ce qu'on apprend, c'est qu'il y aurait vraiment eu, là, tu sais, puis qu'il y aurait même eu des rencontres privées avec le ministre et que les personnes au sein du ministère, au sein du gouvernement qui ont donné leur approbation sont les mêmes qui ont accompagné l'entreprise. Donc là, voyez-vous, c'est si le projet il est tellement bon, ben il devrait être capable de passer à travers les étapes normales d'approbation des projets. Puis surtout, c'est des milliards de nos impôts qui sont en jeu là. Fait que là, on peut pas On peut pas s'émouvoir, on peut pas scandaliser après ça qu'il y a des gens qui disent « Hey, attendez, il faut faire des demandes d'accès à l'information parce que je veux savoir ce qui se passe dans ce projet-là. Je veux savoir si on est vraiment gagnant. » Puis il y en a d'autres qui disent « Hey, je veux savoir si les règles administratives ont été respectées. Je veux savoir si les règles environnementales ont été respectées. » Là, les gens sont obligés d'aller devant les tribunaux. Donc, après ça, c'est difficile, me semble-t-il, de dire « Ah, ben vous devriez pas faire ça, ça génère un mauvais environnement pour l'investissement. » D'abord, je peux vous le dire, là, ça se passe partout dans le monde ailleurs. Les gens disent « On veut de la transparence, on veut de la communication sur les tenants et aboutissants de ces projets-là, parce qu'en bout de ligne, c'est notre argent là, qui est en jeu. » Oui. Les gens doivent savoir, on parle de milliards de dollars qui sont concédés à cette entreprise-là. C'est peut-être un bon projet, peut-être. Nous, on pense qu'il commence à avoir beaucoup de feux rouges puis beaucoup de feux jaunes dans ce projet-là. Est-ce que vraiment les Québécoises et les Québécois vont en avoir pour leur argent? C'est ça la question.
J'ai une double question pour vous, M. Paradis, concernant Northvolt. D'un, est-ce que sous un gouvernement du Parti québécois, on passerait toujours par l'entité qui est le BAP, qui est une entité indépendante, impartiale, pour justement favoriser l'adhésion au projet? Et de deux, qu'est-ce qu'on ferait avec ces milliards-là si on était le Parti québécois? Est-ce qu'on développerait des gros projets comme ça ou on réinvestirait davantage dans nos PME?
Bon, sur la première partie de votre question, là, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, là, c'est un outil important qu'on s'est donné au Québec pour s'assurer que les projets cochent un certain nombre de cases en matière de conformité environnementale. Pour qu'on démontre que ça nuira pas trop à l'environnement, puis qu'on est capable d'avancer, puis que c'est socialement responsable. Ce projet-là, il est tellement gros qu'on n'aurait pas dû en faire une exception. On aurait dû dire, hey, on va passer, puis on va démontrer que finalement c'est bon pour nous, puis qu'on fait tout ce qu'il faut en matière d'environnement pour avancer sur le plan économique, tout en respectant là, l'avenir pour nos enfants. Tu sais, dire qu'on va leur léguer quelque chose qui a du bon sens. C'est ça le problème, c'est qu'on a fait toutes sortes de passe-droits. Bon, maintenant, l'investissement, des projets structurants, il en faut. Est-ce que celui-là, c'est celui qu'il nous fallait au Québec pour avancer? C'est encore un point d'interrogation. Puis oui, je pense qu'au Parti québécois, nous, il ne faut pas oublier que Northvolt, là, c'est une entreprise étrangère. Hein? On fait souvent la comparaison là, avec le moment où on a développé l'hydroélectricité. Mais savez-vous quoi? L'hydroélectricité, on s'est fait confiance, nous, les Québécois. On s'est dit... Wow, attends un peu, là, la distribution d'électricité au Québec, c'est toutes des compagnies étrangères, là, puis on n'a pas pour notre argent, puis on se fait exploiter. On va racheter ça, puis on va développer nous-mêmes le potentiel hydroélectrique. Là, c'est une entreprise étrangère qu'on aide, là, puis on ne le sait pas encore. Là, dans les questions qu'on ne sait pas, c'est hey, quelle obligation de faire affaire avec les entreprises du Québec? Quelle obligation d'embaucher au Québec? Quelle obligation de faire appel à l'expertise québécoise? On ne le sait pas encore. Nous, c'est sûr qu'on a plutôt un préjugé favorable à s'aider ici, puis vous venez de le dire, il y en a des PME innovantes au Québec. Il y en a aussi des moyens de développer de l'énergie en développant des solutions québécoises. Et c'est ça un petit peu là, qui demeure toutes sortes de points d'interrogation. Mais tant que tout ce qu'on va avoir, c'est des réponses que non, on n'a pas accès à l'information, puis on vous envoie des contrats puis des documents caviardés, c'est-à-dire qu'on est quasiment capable de rien lire, bien c'est ça le problème, on ne le sait pas à quel point on va en avoir pour notre argent avec ce projet-là.
Monsieur Paradis, encore quelques questions pour vous avant de vous laisser aller. Un peu à l'image, ou pas mal à l'image d'André Boisclair en 2007, le Parti québécois évite de plus en plus le mot « référendum ». Pourquoi, Monsieur Paradis?
Bien, vous savez, cette conférence de presse-là avec Paul, c'est moi qui étais à côté. Puis oui. Si vous me voyez la face, là, vous allez voir un petit peu ce que je pense de ce débat-là.
Oui, oui, j'ai l'image devant moi en ce moment.
Bon, c'est parce que là, après ça, les gens me l'ont dit, puis j'ai dit, tabarouette, tu parles d'un débat, tu sais, que, en bon québécois, c'est un débat qui n'a pas vraiment rapport. Paul, comme nous tous, là, on utilise référendum, on utilise consultation populaire, vous pouvez dire plébiscite si vous voulez. Je suis certain qu'en tapant synonyme là, sur votre moteur de recherche, vous allez en trouver d'autres.
Oui.
Nous, on n'a aucun problème avec toutes ces expressions-là. D'abord, la loi, là, c'est la loi sur la consultation populaire. Mais oui, les gens connaissent ça comme un référendum. Et nous, là, on a absolument aucun problème avec aucun de ces mots-là. Pour nous, là, consulter le monde là, puis leur dire qu'est-ce que vous en pensez? Puis pensez-vous que le Québec devrait être un pays, là? Il n'y a rien de plus normal que ça. Puis Voyez-vous, tu sais, les gens qui déjà là, commencent à remonter là, l'argument de la peur, tu sais, que juste tenir un référendum, les Québécois et les Québécois, là, on n'est pas capable de faire face à ça. Et on l'a fait déjà deux fois, là. Puis c'est un exercice démocratique. Alors vous allez voir, là, on va utiliser les deux mots, là. Il n'y en a pas de problème de ce côté-là.
Puis la question, est-ce qu'elle serait très claire?
Ben, je pense que notre chef l'a déjà mentionné. Il y a eu des exemples récents ailleurs dans le monde avec, des questions simples, des questions claires. Moi, aujourd'hui, je peux pas vous répondre à ça parce que, vous voyez où est-ce que je m'en vais, là. Ouais. Je sais pas que je veux pas répondre. Oui, on va avoir une question simple, on va avoir une question claire. C'est parce que, justement, on veut que le peuple puisse se prononcer, vraiment, là, de la façon la plus claire possible. Mais en même temps, toutes ces questions-là, là, on a dit qu'on allait suivre un chemin très clair, là. On a publié les finances d'un Québec souverain. Puis ça aboutit à une résolution unanime à l'Assemblée nationale disant qu'un Québec indépendant serait parfaitement viable économiquement. Ensuite, on va faire ce qu'on a appelé le livre bleu. On va répondre à toutes sortes de questions sur le Québec indépendant. Ensuite, on va définir la citoyenneté québécoise. Un des prochains morceaux qui s'en vient, c'est un petit peu notre réponse à l'initiative du siècle. Ça, pour vos auditeurs, là, c'est l'espèce de plan du Canada, là, qu'on ait 100 millions de Canadiens en 2100. Il y en a qui disent que c'est un projet théorique, mais on est déjà là-dedans, là, à 1 million de nouveaux arrivants par jour. On s'en va vers là. Donc, c'est le Québec, le Canada qui est en train de se définir. Puis c'est très correct, c'est légitime de leur part. Puis nous, on veut définir aussi ce que le Québec sera en étant indépendant. Donc, tu sais, nous, on veut être très clair dans toutes nos réponses puis dans toute notre démarche là-dessus pour que on n'ait pas un débat sur la base de la peur, mais qu'on ait un débat sur la base de ce qu'on a peut-être devant nous, là, l'extraordinaire opportunité, l'extraordinaire occasion qu'on a de se donner un pays à notre image, de construire quelque chose de moderne, d'innovant. Fait qu'on va, oui, on va aller dans plusieurs questions d'ici la prochaine élection générale.
Je termine là-dessus, M. Paradis. En parlant de peur, qu'est-ce que vous pensez du camp du non de Denis Coderre? Est-ce que ça aide le PQ ou ça nuit?
Bien, encore une fois, là, je vous dirais que ça, c'est une partie de votre job d'analyser un peu ce que ça donne. Mais c'est quand même assez extraordinaire là, qu'on arrive avec le même slogan là, tu sais, qui a été utilisé il y a des décennies. Pour nous, encore une fois, c'est une question, on ne veut pas se définir par rapport à ce que sera la stratégie politique ou électorale ou même référendaire d'autres. Nous, on veut définir avec le plus de clarté possible le projet que les Québécoises et les Québécois voit à quel point il y a quelque chose d'extraordinairement prometteur dans cette démarche-là, puis surtout de montrer à quel point c'est comme le destin naturel d'à peu près tous les peuples que de finir par s'assumer. Comme vous, messieurs, un jour, vous avez décidé de quitter le nid familial, même si c'était pas garanti tout ce que allait vous arriver après dans votre vie, vous aviez dit, ben, hey, je suis rendu là, puis je suis capable de m'assumer, puis je suis capable de vivre ma vie moi-même. C'est exactement la même chose pour le peuple québécois, puis on a hâte de continuer le dialogue avec tout le monde là-dessus.
Pascal Paradis, député du Parti québécois dans Jean Talon. Monsieur Paradis, toujours un plaisir de jaser avec vous. Merci pour votre temps ce matin.
Merci à vous.
Merci,
bonne
à
journée.
Bientôt. Bonne journée.
Salut.
Belle discussion avec Monsieur Pascal Paradis. Pause. Vas-y, veux-tu rajouter
quelque chose? Ben oui, écoute, c'est parce que je comprends pas. Il parle de Denis Coderre qui utilise un vieux slogan, mais pourtant, Denis Coderre représente le renouveau.
Ouais, c'est ça. Ouais. Du vieux nouveau?
Peut-être.
Je sais pas. à suivre là-dessus. Hey, après la pause, avez-vous vu passer dans les médias le nom de Dave Pic-Turmel pendant la fin de semaine? Qui est ce membre de gang de rue qui joue pas mal, trop, dans les pattes des Hells Angels? On va en parler avec Roger Ferland après la pause. Boulevard.